Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Voyage avec un âne dans les Cévennes, de Robert Louis Stevenson. En septembre 1878, déçu et en proie au doute, Robert Louis Stevenson part s'isoler au monastier sur Gazeille, en Haute-Loire, en Auvergne. Depuis cette localité, il effectue une randonnée en compagnie d'une ânesse, nommée Modestine. Durant ce périple, il pense énormément à sa fiancée, Fanny Osborne. Parti le 22 septembre 1878 de Haute-Loire, il atteint 12 jours plus tard la petite ville de Saint-Jean-du-Gard. Son parcours a cheminé dans le Velay, la Lozère, ou ancien pays du Gévaudan, Mont-Lozère et Cévennes, en passant par les communes de Langogne, Luc, le Blémard, le pont de Montvert, Florac, et Saint-Germain-de-Calberte, en pays Camisard. Cette randonnée de 230 km est connue sous le nom de Chemin de Stevenson et référencée comme sentier de grande randonnée, GR70. Le récit de ce périple, Voyage avec un âne dans les Cévennes, publié en 1879, ne connaît qu'une diffusion confidentielle, avec un premier tirage de seulement 750 exemplaires et recueille quelques bonnes critiques. Il inspirera au siècle suivant de nombreux randonneurs, adeptes du tourisme durable. Trouvant dans une approche sensuelle et poétique de la nature toutes les raisons de croire en l'amour qui allait changer son existence, Robert Louis Stevenson ramena de cette marche sur les chemins des bergers celui de tous ses livres le plus confiant en la vie. Robert Louis Stevenson est né le 13 novembre 1850 à Édimbourg, en Écosse. Son père est un fervent calviniste appartenant à une lignée d'ingénieurs, concepteurs de phares, qui ont apporté leur contribution à la sécurisation du littoral maritime écossais. Sa mère est la fille cadette d'un révérend. Ses premières tentatives de scolarisation vont vite être interrompues pour raison de santé. En janvier 1863, la famille part pour un long périple. Il traverse d'abord la France et s'installe à Menton. Prédestiné à perpétuer la dynastie des Stevenson, il entre à l'âge de 17 ans, en octobre 1867, à l'Université d'Édimbourg pour y préparer un diplôme d'ingénieur. En août 1876, il séjourne à Barbizon, où il rencontre Fanny Osborne. Cette Américaine de 10 ans son aînée est une artiste peintre. Entre deux, le coup de foudre est immédiat. Ils veulent se marier, mais Fanny n'est pas divorcée de son mari. En 1878, elle repart en Californie pour obtenir ce divorce. De son côté, Stevenson voudrait bien la suivre, mais ses finances ne lui permettent pas. De surcroît, son père menace de lui couper les vivres s'il persiste dans cette idée de mariage. Mais en 1879, malgré l'opposition de sa famille, il part rejoindre Fanny Osborne en Californie. En mars 1880, Stevenson manque de mourir d'une pneumonie. Il ne doit son salut qu'à l'attention de Fanny qui se dévoue à son chevet. À peine rétabli, il l'épouse et ils partent en lune de miel, accompagnés du fils de Fanny. En 1881, il trace une carte d'une île au trésor, à la demande de son beau-fils de 12 ans, puis débute la rédaction du grand roman d'aventure éponyme pour laquelle s'enthousiasme son père, Thomas Stevenson, avant de perdre toute inspiration après les 15 premiers chapitres. Entre 1880 et 1897, Stevenson voyage beaucoup en Écosse, en Angleterre, séjourne à Davos, en Suisse, cherchant un climat bénéfique à sa santé. C'est à Davos qu'il retrouve l'inspiration, écrivant les 15 derniers chapitres de L'île au trésor en seulement 2 semaines. Cette œuvre, la première à connaître un vrai succès, ne sera traduite en français qu'en 1885. En 1887, après le décès de son père, il part aux États-Unis, où il est accueilli par la presse new-yorkaise comme une vedette, à la suite du succès de l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde, en 1886. À cette occasion, il rencontre à plusieurs reprises Mark Twain. Début 1890, sa santé se détériore et Stevenson s'installe définitivement à Vailima, au sud de Apia, la capitale des îles Samoa. Sans négliger sa carrière littéraire, il s'investit beaucoup auprès des Samoans. Lors d'une guerre civile en 1893, il prend même leur défense contre l'impérialisme allemand. Plein de gratitude, les indigènes bâtissent en son honneur une route menant à sa plantation. Il devient même un chef de tribu appelé respectueusement Tusitala, le conteur d'histoire, par ses membres. Robert Louis Stevenson meurt le 3 décembre 1894 d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 44 ans. Il est enterré selon son désir face à la mer, au sommet d'un mont surplombant Vailima. Et lors de ses obsèques, 400 Samoans se relaient pour porter son cercueil au sommet de ce mont. Sa tombe porte un épitaphe, les premiers vers de son poème Requiem, composé à Hyères en 1884. Les monts de Lozère se développent quasiment à l'est et à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux parties inégales. Son point le plus culminant, ce pic de Finiels, sur lequel j'étais debout, dépasse de 5600 pieds le niveau des eaux de la mer et par temps clair commande une vue sur tout le Bas-Languedoc jusqu'à la Méditerranée. J'ai parlé à des gens qui, ou prétendaient ou croyaient avoir aperçu du pic de Finiels, de Blanchevoie à Parillon vers Montpellier et Sète. Derrière s'étendait la région septentrionale des Hauts-Plateaux que ma route m'avait fait traverser, peuplée par une race triste et sans bois, sans beaucoup de noblesse dans les contours des monts, simplement célèbre dans le passé par de petits loups féroces. Mais devant moi, à demi voilé par une brume ensoleillée, s'étalait un nouveau Gévaudan, plantureux, pittoresque, illustré par des événements pathétiques. Pour m'exprimer d'une façon plus compréhensive, j'étais dans les Cévennes, au monastier, et au cours de tout mon voyage. Mais s'il y a un sens strict et local de cette appellation auquel seulement cette région hérissée et âpre à mes pieds a quelques droits et les paysans emploient le terme dans ce sens-là, ce sont les Cévennes par excellence, les Cévennes des Cévennes. Dans ce labyrinthe inextricable de montagnes, une guerre de bandits, une guerre de bêtes féroces, fit rage pendant 2 années entre le grand roi, avec toutes ses troupes et ses maréchaux d'une part, et quelques milliers de montagnards protestants d'autre part. Il y a 180 ans, les Camisards tenaient un poste la même sur les monts Lozère, où je suis. Ils avaient une organisation, des arsenaux, une hiérarchie militaire et religieuse. Leurs affaires faisaient le sujet de toutes les conversations des cafés de Londres. L'Angleterre envoyait des flottes les soutenir. Leurs meneurs prophétisaient et massacraient. Derrière des bannières et des tambours, au chant de vieux psaumes français, leurs bandes affrontaient parfois la lumière du jour, marchaient à l'assaut de cités saintes de remparts et mettaient en fuite les généraux du roi. Et parfois, de nuit ou masquées, elles occupaient des châteaux forts et tiraient vengeance de la trahison de leurs alliés ou exerçaient de cruelles représailles sur leurs ennemis. Là, est établi, il y a 180 ans, le chevaleresque Roland. Le comte et seigneur Roland, généralissime des protestants de France, sévère, taciturne, autoritaire, ex-dragon, troué de petites véroles qu'une femme suivait par amour dans ses allées et venues vagabondes. Il y avait Cavalier, un garçon boulanger, doué du génie de la guerre, nommé brigadier des Camisards à 16 ans, pour mourir à 55, gouverneur anglais de Jersey. Il y avait encore Castanet, un chef partisan sous sa volumineuse perruque et passionné de controverses théologiques. Étranges généraux qui se retiraient à l'écart pour tenir conseil avec le dieu des armées et refuser ou accepter le combat, posait des sentinelles ou dormait dans un bivouac sans gardien, selon que l'esprit inspirait leur cœur. Et il y avait pour les suivre, ainsi que d'autres meneurs, des ribambelles et des kyrielles de prophètes et de disciples, hardis, patients, infatigables, braves à courir dans les montagnes, charmant leur rude existence avec des psaumes, prompts au combat, prompts à la prière, écoutant pieusement les oracles d'enfants à demi-fous et qui déposaient mystiquement un grain de blé parmi les balles d'étain avec lesquelles ils chargeaient leurs mousquets. J'avais voyagé, jusqu'à ce moment, dans une morne région et dans un sillage où il n'y avait rien de plus remarquable que la bête du Gévaudan, Bonaparte des loups, dévoratrice d'enfants. Maintenant, j'allais aborder un chapitre romantique, ou plus justement, une note romantique en bas de page de l'histoire universelle. Que restait-il de toute cette poussière et de tous ces héroïsmes surannés ? On m'avait assuré que le protestantisme survivrait toujours dans ce quartier général de la résistance huguenote. Bien mieux, même un prêtre me l'avait affirmé dans le parloir d'un couvent. Il me restait toutefois à connaître s'il s'agissait d'une survivance ou d'une tradition féconde et vivace. En outre, si dans les Cévennes septentrionales, les gens étaient stricts à nos opinions religieuses et plus remplis de zèle que de charité, qu'avais-je à attendre de ces champs de persécution et de représailles, dans cette contrée où la tyrannie de l'Église avait provoqué la révolte des Camisards et la terreur des Camisards jeté la paysannerie catholique dans une rébellion légale du côté opposé, en sorte que Camisards et Florentins se tenaient cachés dans les montagnes pour sauver leur vie, les uns et les autres. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.